Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous allons directement commencer ce Laissez-vous tenter qui sera très riche avec le cinéma. Bien entendu avec vous, Stéphane Boutsog, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous disiez la semaine dernière que l'heure de la rentrée avait sonné pour les films français. Les premières bonnes notes sont-elles tombées ?
Eh bien pas mal, oui, d'après nos amis du site cbo.fr. On va même mettre un A pour Le Fils de Jean de Philippe Thioret qui avait démarré doucement, qui s'est très très bien repris, notamment depuis lundi. On sera largement au-dessus des 100 000 entrées aujourd'hui en moins de 200 copies, ce qui est vraiment bien. Un B+, tiens, pour le film de Pascal Chaumeil, un petit boulot qui a fait marrer environ 150 000 personnes. Un B pour Bloodfather avec Mel Gibson, à peine au-dessus des 120 000. Et puis pour Divine aussi, qui frôle les 100 000. Et puis enfin, et malheureusement, je le regrette, un D pour Nocturama qui n'a attiré que 25 000 personnes dans les salles. Le rejet du thème du film qui part des attentats à Paris a vraiment été clair.
On va donc passer aux nouveautés de ce 7 septembre. Oui. Et tout d'abord, Infiltrator, film américain qui raconte une histoire d'infiltré.
Histoire vraie d'ailleurs, celle de l'agent fédéral Bob Mazur, qui pendant les années 80 a patiemment tissé des liens avec les lieutenants de Pablo Escobar pour tenter de démanteler l'empire du baron colombien de la drogue. Mission périlleuse pour sa vie, mais aussi celle de son entourage. Alors le film raconte tout ça sans génie, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais avec une très belle reconstitution et puis un très beau boulot sur les personnages. C'est Bryan Cranston, le héros de la série Breaking Bad, qui incarne formidablement l'infiltré. Et à ses côtés, on retrouve Diane Kruger dans le rôle d'un autre agent qui jouera sa vraie fausse fiancée au fil du temps. Et c'est là où le film est intéressant. On se rend compte que les agents ont noué des liens avec ceux qu'ils devaient trahir, au point de ressentir presque de la tristesse quand effectivement ils ont dû les arrêter.
Quand on passe 3 ans avec les criminels, même si on sait ce qu'ils font pour le travail, que c'est profondément mal, je pense qu'on voit aussi qu'eux aussi, ils ont des familles, eux aussi, c'est des gens qui aiment, qui ne sont pas que mauvais, quoi, qui ne sont pas que noirs. Et je pense que c'est aussi une raison pour laquelle elle n'a pas après continué à s'infiltrer, parce que je pense qu'elle a quand même eu des sentiments pour cette personne-là et elle a peut-être compris que pour son travail, ce n'était pas possible qu'elle se mêle humainement avec ça, quoi. Elle ne veut pas rencontrer les gens, elle a toujours très peur de se faire reconnaître. D'ailleurs, même elle est venue à l'avant-première à Tampa et elle ne s'est pas présentée. Donc elle m'a appelée après pour me dire qu'elle était là, mais elle n'osait pas de montrer son visage.
Infiltrator, donc le film a fait l'ouverture du festival américain de Deauville vendredi, ça sort aujourd'hui en France. Autre film que j'ai pu voir en Normandie, Comancheria, épatant western contemporain qui raconte comment deux frangins vont braquer des agences de la banque qui a ruiné leur famille, poursuivi par un vieux marshal interprété assez joliment par Jeff Bridges. Là aussi, on l'a déjà vu, mais il y a un très beau savoir-faire. J'en dirai pas autant de la version 2016 de Ben-Hur, qui se proposait de revisiter le classique de William Wheeler, sorti en 59. Après la Rome antique, voici la Rome en toc. Ou plutôt en effets spéciaux. Alors, ils sont très très laids. Ça rend ridicule certaines scènes mythiques, comme celle des galères ou de la course de chars, avec quand même des chevaux en image de synthèse, si vous voulez.
Non, oui.
Et puis, les deux acteurs ont le charisme d'une amphore. Donc, la somme de tout ça, c'est qu'il faut pas s'attaquer aux monuments historiques.
On s'appelle visite, mais on ne s'appelle pas Ben-Hur comme ça.
Bah, évidemment.
Le cinéma français à présent, Stéphane, avec un film dont on parle beaucoup, Éternité.
Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il n'y en a pas vraiment. Je ne vous dirai pas ce que j'ai vu parce que je ne le sais pas vraiment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a beaucoup plu. Éternité met en scène de façon majestueuse 100 ans de la vie de 3 femmes dans des moments intimes, leur vie amoureuse, la famille. Par petites touches, en saisissant les détails, les postures, les visages et les corps, le réalisateur Tran Anh Hung réussit à capter l'essentiel de ce qui fait une vie. Ça parle donc d'amour, de transmission, de famille et ça embarque 3 très belles actrices dans l'aventure. Audrey Tautou, Mélanie Laurent et Bérénice Bejo, cette dernière encore toute troublée de l'expérience.
C'est extrêmement rare de rencontrer un réalisateur qui met que 3 phrases de texte dans un film, qui vous parle de texture, de couleur, d'émotion, de délicatesse. Et du coup, je suis partie dans cette aventure sans vraiment savoir où j'allais. J'étais beaucoup perdu pendant le tournage parce que c'est un film qui se fait au montage. Du coup, quand j'ai découvert le film, j'ai découvert un film qui me parlait finalement de choses extrêmement importantes qui sont l'amour, l'amitié, les liens qui nous unissent les uns les autres. Et finalement, je pense que à la fin d'une vie, la chose qui restera pour chacun de nous, c'est les gens qui nous ont entourés, les gens qui nous ont aimés, les gens qu'on a aimés. Et c'est vraiment un film qui nous ramène à ça, qui nous ramène aux choses les plus simples et les plus importantes de la vie, qui sont les êtres humains.
Bérénice Bejo, donc, à voir dans Éternité. Bérénice qui a retrouvé son époux Michel Hazanavicius pour un film qui s'appelle Le Redoutable, qui raconte par le biais de la comédie la rencontre entre Jean-Luc Godard, joué par Louis Garrel, et l'actrice Anne Wiazemski. On est à la fin des années 60. On rappelle également la sortie de France, le dernier film de François Ozon. On recevait François Ozon et Pierre Ninet lundi. Magnifique étude également du mensonge et de l'amour après la guerre 14-18.
Et puis pour terminer cette revue de films, on parle d'un documentaire, oui. Stéphane, Relève, histoire d'une création de Thierry Demézière et Alban Thurial.
Remarquable boulot qui suit l'arrivée et l'installation de Benjamin Millepied à la direction de la danse de l'Opéra de Paris en 2014 et 2015. Nomination, on le sait, qui s'est terminée par son départ précipité en février dernier. Le film s'arrête au moment des premiers soucis quand Millepied découvre la lourdeur de l'institution et comprend qu'il sera très difficile de faire bouger les choses, qu'il s'agisse d'un changement de revêtement de sol dans les salles ou, écoutez, de l'engagement de danseurs plus jeunes ou de couleur.
Quand je suis arrivé, que j'ai fait les premiers rendez-vous avec les danseurs, j'avais des danseurs qui tremblaient en me parlant, qui arrivaient à peine à parler. Moi, je me sentais pas particulièrement impressionnant ou terrorisant, mais il y avait une énorme peur de la hiérarchie. Quand une maîtresse de ballet dit à une danseuse « je vais te casser », pour moi, c'est impossible de savoir que ça arrive dans les studios. J'ai envie d'avoir une compagnie en 2015 de ballet qui soit diverse, où on ait des danseurs de nationalités différentes, de couleurs différentes sur scène. Moi, j'ai entendu très clairement en arrivant qu'on met pas une personne de couleur dans un corps de ballet parce que c'est une distraction. C'est-à-dire que s'il y a 25 filles blanches avec une fille noire, ben on va regarder que la fille noire. Un corps de ballet, voilà, tout le monde doit être pareil. Donc pareil, ça veut dire que tout le monde doit être blanc. Et justement, si nous, avec l'art, on peut pas être un exemple pour notre société, alors où va-t-on ?
Relève, histoire d'une création, passionnant portrait d'artiste. On avait vu une première version à la télé au printemps. Le documentaire a été enrichi pour la version cinéma.
Et on rappelle que Thierry Demézière fut pendant très longtemps une des très grandes voix de la rédaction d'RTL.
Et c'est Aurélie Dupont qui a remplacé Benjamin Millepied à la tête de la danse de l'Opéra de Paris.
Voilà, on est complet dans un instant. On fera un point sur nos audiences télévisées.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
9h11, les soirées, pardonnez-moi, les audiences de notre soirée télévisée avec Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien écoutez, comme j'ai le caractère mieux fait que la figure, je me réjouis quand même des résultats d'audience qui sont bonnes pour plein de gens. Le football, près de 6 millions de téléspectateurs et 25% du public, donc ça fait beaucoup de déçus au score final.
Ah oui, ça c'est sûr.
Sur la deuxième position, Capitaine Marlowe, ben, elle va être contente quand même, José Dayan qui avait peur d'avoir une tôle à cause du foot. 4 300 000 téléspectateurs et 18% du public sur France 3.
C'était super.
C'est très bien. Et alors, sur M6, En Famille, également bon score, 3 400 000 téléspectateurs, mais plus de 26% des femmes étaient sur cette chaîne, ce qui l'a fait leader, entre guillemets, sur les femmes de moins de 50 ans, les fameuses ménagères responsables d'achat, comme on dit. Et alors, côté TNT, eh bien, c'est le film Vol 93 sur Énergie 12 qui est en tête, 730 000 téléspectateurs, personne ne fait mieux.
Merci Isabelle.
Les Express LVT.
Et bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Bruce Springsteen fait la une du magazine américain Vanity Fair et dévoile les premiers extraits de son autobiographie.
Oui, autobiographie intitulée Born to Run qui sortira en France le 29 septembre prochain chez Albin Michel. Et d'ici là, donc, le boss fait la couverture du célèbre magazine Philippe Corbet avec une photo pour le moins réussie.
Oui, sur une Harley devant un drapeau américain, superbe photo d'Annie Leibovitz qui a suivi le boss dans les coulisses de son concert à Bercy avant la sortie de son autobiographie qu'il a appelée Born to Run, comme l'album qu'il a rendu célèbre en 75. Springsteen parle ouvertement de sa maladie mentale. On savait qu'il avait souffert de profondes dépressions dans les années 80, mais il révèle que ce combat continue, qu'il a eu une période très sombre récemment, entre 2009 et 2013, et veut justement, avec ce livre, montrer que cette maladie ne quitte jamais totalement ceux qui en souffrent. Il ne prononce pas le mot de suicide, mais raconte qu'en privé, sa femme a appris à réagir à ses poussées de blues, à alerter les médecins d'urgence quand elle l'observe comme un train de marchandises chargé de nitroglycérine qui déraille à toute vitesse. Son épouse dit d'ailleurs que son œuvre se nourrit de ce combat contre cette maladie mentale, comme cette chanson de son dernier album, This Depression, enregistrée au moment où il était très mal.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Et dans cet entretien, Bruce Springsteen confie également que son prochain album est prêt. Il sortira l'année prochaine.
Alors jetons maintenant, Charlotte, notre coup d'œil hebdomadaire au palmarès des meilleures ventes de livres avec RTL et le magazine L'Express.
Amélie Nothomb et Laurent Godet dominent la rentrée littéraire. La romancière belge se clash numéro 1 avec Riquet à la houppe et l'auteur du Soleil des Scorta, prix Goncourt 2004, prend la deuxième place avec Écoutez nos défaites. Laurent Godet était venu nous en parler ici même jeudi dernier. Du côté des essais et documents, eh bien c'est le livre de Nicolas Sarkozy, Tout pour la France, qui occupe la tête des ventes.
Quant au lauréat du Goncourt 2016, eh bien on le connaîtra le 3 novembre, mais la compétition a été lancée hier avec la publication de la première sélection du célèbre jury présidé par Bernard Pivot.
16 auteurs de la rentrée figurent sur cette première liste, dont, et c'est une première, deux chanteurs qui racontent leur enfance, le jeune rappeur franco-rwandais Gaël Faye dans Petit Pays, déjà récompensé par le prix Fnac, et Magid Cherfi du groupe Zebda dans Ma part de Gaulois. Tomber la chemise, le plus grand succès de Zebda, écrit par Magid Cherfi depuis hier, donc l'un des 16 prétendants au Goncourt.
Les Innocentes, c'est le dernier film d'Anne Fontaine qui connaît un vrai succès aux États-Unis avec près $1 million de recettes.
Oui, si bien qu'il fait partie de la liste des films susceptibles d'être le candidat de la France pour l'Oscar du meilleur film étranger. On connaîtra officiellement le nom du candidat Tricolore courant septembre. D'ici là, sachez qu'Anne Fontaine tourne actuellement Marvin, adapté du roman En finir avec Eddie Bellegueule, gros succès en librairie, signé Édouard Louis avec notamment Isabelle Huppert.
Et puis Jennifer dévoile un nouvel extrait de son 7e album.
La jolie brune qui a annoncé qu'elle ne participerait pas à la prochaine saison de The Voice vient en effet de dévoiler ce nouveau titre. Il s'intitule Mourir dans tes yeux. On écoute.
Tu es passé aux aveux, tu es passé. Je n'ai pas vu venir l'amour.
Mourir dans tes yeux, nouveau single de Jennifer qui sera à découvrir dans son 7e album, sorti prévu le 28 octobre prochain.
Et Jennifer, on la verra au cinéma en début d'année. Elle sera à l'affiche d'une comédie qui s'appelle Faut pas lui dire, avec notamment Ariel Mallet, Camille Chameau et Brigitte Fossé.
Merci à tous les deux, en particulier à Charlotte. C'était les Express de Laissez-vous tenter. Alors une idée de sortie à présent, hein. Elle s'appelle Les Coquettes. Depuis quelques mois, elle cartonne au Grand Point Virgule à Paris. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez assisté à leur spectacle détonnant.
Elles sont plus piquantes que les Spice Girls, moins distinguées que les Andrews Sisters ou les Parisiennes, vous vous en souvenez peut-être.
Ah oui. Oh oui.
Les Coquettes, ça commence comme ça.
Ce soir, les Coquettes vous ont préparé un show, un truc de dingue à l'américaine. Mais comme on a mis tout l'argent dans le décor, ce sera un show à la Yougoslave. Hey,
ouais, c'est la loi des coquettes, bien trop belle pour être honnête. Elles vont vous dévoiler leurs quatre vérités. Dès qu'elles descendent dans l'arène, la foule entière se déchaîne.
Ni un concert, ni un one-woman show, les Coquettes font leur numéro dans la grande tradition du cabaret. Une vingtaine de chansons inédites, entrecoupées de sketchs. Et toujours dans la bonne humeur, faut dire que les Coquettes s'adorent, ou presque.
Tweet up à la paix, oh
je t'ai le cerveau de la taille d'un pois chiche. T'as vu ta tête, tu trouveras jamais de mec. Tant pis pour moi, je mangerai un bon bistec.
Tu ferais mieux de manger de la soupe. Ton cul est plus gros que la Guadeloupe.
Tu ferais mieux de refaire ton nez. Au moins tu pourrais voir tes pieds. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Y'a pas ce genre de micmac entre nous. Non, il n'y a pas de chef entre nous. Ce qu'on a envie de faire, c'est chanter choubidoubidou entre nous.
Elles chantent bien en direct, elles sont accompagnées d'un pianiste. Pendant 1h20, les trois copines croquent en harmonie leur vie de trentenaire. Elles chantent leur rêve de porter des loup-boutins, leur passion pour la petite fessée du dimanche soir et racontent leurs expériences sexuelles, à commencer par Lola.
Ah. J'ai fait un stage Kama Sutra, testé la brouette thaïlandaise. Les pieds en l'air, la tête en bas, j'ai rendu mon poulet basket.
Juliette, elle, a fait encore mieux.
Je suis allée en club échangiste, je me suis tapé deux heures de queue. Dans une salle, ils étaient 28 et il y avait mon père au milieu. On pourra pas nous le reprocher, au moins on aurait essayé. Vous pouvez dire que ça fait mémé, mais ce qu'on préfère, c'est mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire, mon missionnaire.
Alors c'est Coquettes.
Isabelle.
Mais oui,
vous êtes d'accord.
On en arrive toutes là.
Ah bon, très bien. Alors, bientôt dans les coquettes. Isabelle Auribosque. Oui, non. Dites-moi, elle ne serait pas un chouïa vulgaire, parfois
Vulgaire, non. Familière, oui. Les coquettes sont aussi décomplexées que leurs robes sont flashy, plus chansonnières que malpolies. Lola Cesse, Juliette Faucon et Marie Facundo ont formé leur trio un petit peu par hasard. Mm-hmm.
On est amis dans la vie. On s'est rencontrés il y a 8 ans sur une comédie musicale qui s'appelle Le Soldat Rose. Après avoir suivi des parcours très différents, on a eu envie de se retrouver.
On avait des choses à dire ensemble. On met en scène, on écrit. On chante en même temps, c'était vraiment pour le coup très nouveau. Non, et puis surtout, la grande différence avec ce qu'on faisait avant, c'est que là, on ne joue pas des personnages. On est nous, on est trois amis, on se marre.
On s'est amusé avec les caractères de chacune, les qualités, surtout les défauts. Et Juliette, elle fait toutes les voix aiguës.
Lola fait toutes les voix lead, donc la mélodie normale, on va dire.
Et moi, spontanément, je fais les voix graves.
La petite fessée du tirant-soir, la petite fessée du tirant-soir.
Alors derrière leur légèreté apparente, les coquettes enchaînent aussi les provocations dans deux medleys intitulés « Chute, on n'en parle pas », le métier de proctologue, l'excision et même les bébés congelés.
Bébé a trop chaud, t'as pas de ventilo, fous-le dans le congélo avec les glaces à l'eau. Et surtout ne fais pas comme Véronique Courgeot, brise pas la chaîne du froid, ça serait vraiment ballot.
Les coquettes
moi
sont
j'adore
chouettes.
Ça, hein.
Jouent...
Moi
aussi.
Elles jouent du mercredi au samedi au Grand Point, virgule à Paris, ça coûte 29 euros.
Tu le dis mais tu le dis pas, oups, pia pia scoop, blabla. Je te le dis mais tu le dis pas, oups, pia pia scoop, pia pia, blabla bla, oups, pia pia scoop, blabla. Je te le dis mais tu le répètes pas.
Grand merci de m'avoir fait découvrir les coquettes, Stephen Bellery. Dans un instant, on retrouve une autre coquette, Monique Younes, qui va nous parler du couple Jaoui Bakri.
Mais oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
9h23, Monique Younes, vous nous parlez ce matin d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri, ce qui me ferait très plaisir, qui seront dès samedi prochain sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin pour jouer un classique, Les Femmes Savantes de Molière, et c'est peut-être et c'est peu dire que le public, pardon, les attend puisque cela fait 22 ans qu'on ne les avait pas vus ensemble sur les planches.
Exact, depuis Un air de famille qu'ils avaient écrit et interprété ensemble. 22 ans, c'est une éternité qui ne semble pas leur avoir paru trop longue.
Ben, c'est une éternité, mais nous, on a eu l'occasion de se voir pendant ces 20 ans, donc on a écrit quelques films et...
Il n'y avait pas de manque.
Non, ça, de ce côté-là, ça va, on se...
Il n'y avait pas de manque, mais il y a une joie certaine à se retrouver sur scène.
Oui, c'est sûr.
Voilà, et vous serez tout aussi heureux de les retrouver sur scène. Bakri, dans le rôle de Crisale, un mari lâche.
J'aime fort le repos, la paix et la douceur, et ma femme est terrible avec son humeur. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre, c'est un vrai dragon.
Oui, il est un peu lâche et misogyne aussi. Il ne supporte pas que sa femme, l'autoritaire Philaminte, jouée par Agnès Jaoui, passe son temps à tenter de se cultiver.
Il n'est pas bien honnête, pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former au bon humeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie.
Alors, il faut dire que chez Molière, elles sont ridicules, ces femmes savantes. Hein.
Eh bien, ici, pas tant que ça. Parce que Catherine Yégel, qui met en scène Les Femmes Savantes, voulait poser un autre regard sur ces femmes. Car même si elles s'y prennent mal, on doit leur rendre hommage à, déjà, leur volonté d'apprendre et reconnaître aussi leur courage. Et qui d'autre qu'Agnès Jaoui, femme engagée s'il en est, pour porter ce message ou cette ambition?
C'est quelqu'un qui a un quotidien dont elle veut s'échapper et tout ce qu'elle désire, c'est avoir accès à cette culture. Elle est dans une vraie passion par rapport à ça. Et il se trouve qu'en plus, dans mon texte, il y a beaucoup de choses que je revendique totalement. Quand je dis à ma fille que la beauté est un frêle ornement qui n'est attaché qu'à la simple épiderme, c'est-à-dire qu'elle fane et qu'après il reste 50 ans à vivre avec autre chose, quoi. Qu'il faut donc nourrir son âme et son esprit avec ses capitales. Ça, je peux le dire aujourd'hui. Quand je dis que les femmes aussi peuvent faire des sciences, qu'elles aussi, elles peuvent participer aux économies. Et pourquoi pas au gouvernement, ça, je ne le dis pas. Enfin, quand on voit qu'aujourd'hui, il y a encore 18% de femmes au gouvernement, etc., etc., et que même, on est toujours payé moins que les hommes, comme si c'était normal, enfin, bah, on se rend compte que non seulement elle avait raison, mais encore une fois, on n'est pas au bout de nos peines.
Non, Monique, c'est la nouveauté permanente que nous offrent les grands auteurs. Leurs textes traversent les siècles. Les Femmes Savantes datent de 1672.
Oui, mais il faut aussi le talent de grands comédiens, comme Bakri et Jaoui, qui maîtrisent l'alexandrin.
Pour un acteur qui est passé par des cours de dramatique, comme c'est notre cas, l'alexandrin, c'est un ami pour nous. C'est-à-dire, on se repose dessus, on a appris par cœur, je connais des tirades de rôles que je n'ai pas joués. juste pour le plaisir de les dire tout fort chez soi ou en faisant sa vaisselle.
Mais ce qui est extraordinaire, mais vraiment, on ne sent pas les alexandrins. Il n'y a pas
tant. Bien sûr, évidemment. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas ce goût-là, il sera soumis par les 12 pieds de l'alexandrin et il fera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en général, les acteurs, je crois que Agnès et moi, nous ne sommes pas les seuls, se débrouillent pour les casser et les soumettre à quelque chose de plus naturaliste.
Donc on peut voir Bakri et Jaoui casser les alexandrins dès samedi. Est-ce qu'ils vont bientôt refaire du cinéma ?
Mais oui, ils sont en écriture d'un scénario de film qui pourrait s'intituler Place publique.
Enfin, on a à peine terminé une première version, une version 0,8, comme on fait toujours que 5-6 versions. Question maintenant qu'on y retravaille pendant quelques mois pour achever le truc, aboutir le truc.
Je peux connaître un peu le thème ?
Oui et non, vas-y, dis quelque chose.
Il y a beaucoup de thèmes, les idéologies, la gauche, la droite, qu'est-ce que c'est maintenant, vieillir. La compassion, est-ce qu'on y a droit, vieillir, et les médias.
Les réseaux, les médias, notre nouveau monde.
Voilà, en attendant le film, vous pourrez voir Jean-Pierre Bacri.
Vaste programme, comme on dit.
N'est-ce pas ? Mais c'est émouvant quand même, hein. Ils ont encore cette rage et qu'ils maintiennent. Ils sont sur scène, Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, en chair et en os, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, dans Les Femmes Savantes de Molière, dès samedi prochain et jusqu'au 30 octobre.
Et dans un instant, c'est Julien Courbet qui est sur le pont. A tout de suite. Grand merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter, qu'on retrouve avec grand plaisir demain. Et maintenant, la parole à Julien Courbet.
Merci beaucoup, la matinale info. Oh là là.